Ça fait environ 5 ans que la transition est en route, sur le denim particulièrement. Donc ça a été d'abord l'utilisation de coton bio, ensuite de coton bio mélangé avec du coton recyclé, et des nouveaux process de teinture et de délavage.
C'est l'histoire d'une transition écologique qui se fait à tout petit pas. L'industrie de l'habillement est l'une des plus polluantes au monde. À cela plusieurs raisons. Le coton est une plante tropicale fragile, abondamment arrosée de pesticides. Pour teindre les textiles, l'industrie utilise des produits chimiques. Il faut ensuite transporter les vêtements d'un continent à l'autre, ce qui provoque d'importants rejets de CO2 dans l'atmosphère. D'après l'ONG WWF, le secteur de la mode génère chaque année 1,7 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Les marques de vêtements ont opéré un très timide virage écologique, mais aussi social, après le drame du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Le bâtiment qui abritait plusieurs ateliers de confection s'est effondré, provoquant la mort de plus de 1100 ouvriers. Ce drame a jeté une lumière crue sur les dérives de la mode de masse.
Si vous, en tant que consommateur, vous cautionnez ces pratiques, sans vous demander « mais comment est fabriqué mon jean ?», vous êtes aussi coupable.
Dans ce numéro d'Interception, nous nous intéresserons au vêtement le plus polluant, le jean. Pour produire un seul jean, il faut 7500 litres d'eau. Il est fabriqué dans des ateliers au Maghreb, en Asie ou en Turquie, où nous emmènera Lola Fourmi. Là-bas, des sous-traitants de grandes marques tentent de produire des jeans dans de meilleures conditions sociales et environnementales. Nous irons également en Lozère, où l'entreprise Tuféry vend des jeans 100% fabriqués en France. Elle utilise de la laine et du chanvre, une alternative plus écologique que le coton.
Pourquoi investir là-dessus ? Parce que je pense qu'on ne pourra pas trop se permettre d'avoir le luxe de faire voler ou naviguer des bottes de coton qui viennent de très très loin, très longtemps.
Un autre jean est possible. C'est un reportage de Lola Fourmi avec Arthur Gerbeau et François Rivalan à la prise de son.
France Inter. Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Donc ça, c'est le plan du Forum des Halles, un des plus grands centres commerciaux de Paris. Et il y a la liste des enseignes de vêtements. Donc là, il y en a plus de 20. J'en compte environ 25, 27. Et quasiment toutes proposent des jeans. Et on vient de croiser Marilyn, qui est étudiante de 23 ans, étudiante en école de commerce. Et Marilyn, je vous ai trouvée à la sortie d'une boutique. Qu'est-ce que vous alliez acheter ?
Notamment des jeans, parce que j'en porte souvent. C'est un article que j'achète tout le temps, j'en ai jamais assez.
Combien vous en avez, est-ce que vous savez ?
Waouh, ça je sais pas du tout, il y en a trop. Je peux pas compter, j'ai arrêté de compter.
Marilyn, combien vous payez en moyenne un jean ?
Le prix le plus bas, c'est 19,99€, disons 20€ quoi. Ça peut aller jusqu'à 60€, 80€, ça dépend de la marque. Voilà.
Est-ce que vous faites attention à d'où viennent et comment sont fabriqués vos jeans ?
Non, du tout. Je ne m'attarde pas trop sur le détail, je m'attarde beaucoup plus sur la qualité ou comment ça me va quand je le mets, c'est tout.
Est-ce que vous savez combien de litres d'eau on utilise pour faire un jean ?
J'en ai aucune idée.
C'est entre 7000 et 10 000 litres. Ça fait environ 285 douches.
Wow.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous faire réfléchir et vous dire « il faut que j'achète moins de jeans »
Je sais pas. Il y aura toujours cette envie d'acheter de nouveaux jeans à chaque fois. Donc, je pense pas que ça va vraiment me freiner dans mon achat. Donc, je crois pas.
Donc là, on est juste devant le hall 6 du parc des expositions de Villepinte, au nord de Paris. On est au salon Première Vision. C'est le plus gros salon au monde qui rassemble les exposants de l'amont de la filière textile. Donc les tisseurs, les fournisseurs de matières, du cuir, du dénim et aussi d'accessoires, ils sont plus de 2050 cette année, rassemblés pendant 3 jours. Et ici, on parle des tendances automne-hiver de la saison prochaine, donc 2020-2021.
Je suis Marina Coutelon, je suis responsable mode du département Smart Création, qui chez Première Vision est dédié à l'éco-responsabilité. Alors sur cet espace Smart Création, on va retrouver à la fois des fils, des tissus, des cuirs, des composants accessoires pour faire les collections de mode. Également un espace de conférence parce qu'on sait que l'approche pédagogique est clé sur ces sujets qui sont complexes. On est là pour décrypter tous les enjeux mode liés à la durabilité. Et on a aussi une offre de services, c'est-à-dire des consultants, des organismes d'audit qui peuvent accompagner les maisons de mode dans leur transition durable.
Pourquoi finalement la production de jeans est une des plus polluantes au monde ?
Alors en premier lieu, c'est le problème de l'utilisation d'eau. Sur un jean, on est en moyenne sur 8000 litres d'eau. Quand on parle de 8000 litres, c'est vraiment l'ensemble de la production du jean. C'est-à-dire qu'on est vraiment dès la culture du coton, après le tissage, la teinture, le délavage. Par exemple, sur l'étape du délavage qui prenait à peu près 1000 litres d'eau, aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, des nouvelles machines qui permettent de délaver avec l'équivalent d'une tasse d'eau. Donc on est sur 30 centilitres, donc une économie flagrante.
Depuis quand on voit des changements dans la production en amont de la filière textile et en particulier dans la filière du denim ?
Ça fait environ 5 ans que la transition est en route, sur le denim particulièrement. Donc ça a été d'abord l'utilisation de coton bio, ensuite de coton bio mélangé avec du coton recyclé et des nouveaux process de teinture et de délavage.
Est-ce que c'est un marché qui prend de plus en plus de place ? On le voit au début, il n'y avait que 50 exposants, je crois, dans la Smart Création. Au fil du temps, là, on est à 250.
Oui, ça ne cesse d'augmenter. Et là, ça fait vraiment 2 ans qu'on sent une accélération et 1 an qu'on sent un changement quasi systémique dans notre industrie de la mode. Parce que quand on s'engage dans cette voie-là, c'est des investissements au niveau de nouvelles machines. Et c'est aussi que quand on fait un pas vers ça, on ne va jamais revenir en arrière. Aussi parce qu'on a des normes, des régulations qui sont en route, des accords au niveau de la filière. Vous avez entendu parler du Fashion Pact qui fait que tout le monde se mobilise sur la question.
Oui, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une mobilisation qui est un peu opportuniste, branchée ? On parle beaucoup de greenwashing. Est-ce qu'il y a des vrais changements de paradigme ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux ?
Il y a des vrais changements de paradigme aussi parce qu'il y a des nouveaux business models sur le leasing en vêtements, sur des process de location, et même des géants comme Urban Outfitters se mettent à proposer des vêtements en location pour avoir moins de problèmes de surproduction et de vêtements qui sont achetés, jetés constamment. Et oui, il peut y avoir du greenwashing parce que en ce moment, ces questions, elles sont brûlantes. Maintenant, pour la plupart, comme je l'évoquais, vu que ça demande des investissements, on ne va pas revenir en arrière.
Parce qu'on le voit, en fait, les changements, ils s'opèrent petit à petit. Par exemple, un fournisseur va décider d'investir dans les énergies renouvelables, l'autre va miser sur le coton bio. Finalement, est-ce qu'on peut tout changer d'un coup ?
Non, on ne peut pas tout changer d'un coup parce que c'est des parcs machines qui ont des coûts très importants et donc la transition, elle se fait petit à petit. Donc on va d'abord travailler sur la fibre, ensuite par exemple sur la teinture, sur le finissage. Voilà, il faut accepter que cette transition, elle prenne du temps et aussi parce que les innovations apparaissent chaque année et donc les tisseurs vont accompagner cette transition-là.
To make it easy to use, to maintain, to update, repair, reuse, recycle.
On vous emmène maintenant à l'origine de cette toile de jean. Nous voici donc en Turquie. C'est d'ici que proviennent 42% des jeans que l'on trouve en Europe. Le pays a été pointé du doigt pour sa pratique du sablage, qui consiste à projeter à haute pression du sable pour éclaircir le jean, pratique qui aurait causé la mort de plus de 2000 ouvriers et qui a été interdite en 2009. Depuis, plusieurs entreprises essaient de développer des méthodes plus écologiques. C'est le cas notamment de Bossa, installée à Adana. On est tout au sud de la Turquie. Adana, c'est une ville industrielle d'1,5 million d'habitants. Et ici, on a rendez-vous avec Besim Ozek, c'est le directeur des affaires chez Bossa, pour visiter la manufacture de toiles de denim et ses 20 hectares de surface.
Donc on va commencer par le filage, puis on ira voir la teinture et les finitions. Ça, c'est le coton recyclé. Ici, on produit de la toile de denim en coton qu'on envoie ensuite à nos partenaires. Certains les récupèrent après usage, les retraitent pour en faire des fibres et nous les renvoient ici chez Bossa pour qu'on les utilise à nouveau dans une nouvelle production. C'est la façon de produire la plus écologique au monde. Le recyclage, c'est vraiment le mieux. Encore mieux que le coton bio. Le recyclage, c'est le roi. Il y a 12 ans, on a produit la toute première toile de jean fabriquée à 100% avec des matériaux recyclés. Il y avait 20% de coton recyclé et 40% de polyester recyclé. Et on a obtenu un brevet pour ça, pour être les premiers à faire de la toile de jean à partir de produits recyclés en Turquie. Malheureusement, le rendu n'était pas très vendeur. Personne ne l'achetait car le résultat n'était pas assez beau. Mais après ça, on a beaucoup investi, on a essayé de faire mieux et aujourd'hui, on produit toujours de la toile de denim recyclée, mais la nouvelle, vous allez l'adorer, elle est totalement commerciale. Et ça, c'est le plus important à propos de la durabilité. Ce doit être durable, mais aussi vendeur, ce doit être joli. Aujourd'hui, on est super fiers d'être les meilleurs producteurs de toile de jean recyclée sur le marché.
Et maintenant, vous mettez plus de polyester ?
Non, on est très fiers de ça.
Alors, nous sommes toujours dans l'usine Bossa à Adana, au sud de la Turquie. Et nous venons de visiter l'entrepôt où le coton recyclé est stocké. C'est un grand hangar où des montagnes de coton sont alignées de chaque côté. Là, on en sort pour aller voir une autre innovation.
Ici, c'est le bassin de retraitement des eaux. C'est un bassin très particulier.
Parce que Bossa fait aussi des efforts pour retraiter ses eaux usées.
L'eau de Bossa a un pH basique. Donc, pour la rendre neutre, on doit l'amener à un pH de 7. Sauf que pour l'amener à un pH de 7, on doit mettre de l'acide dedans. Avant, il y a 5-6 ans, on avait pour habitude de mettre de l'acide sulfurique dedans pour atteindre le bon pH. Mais on s'est rendu compte que l'acide sulfurique était très mauvais pour l'environnement. Alors on a décidé de ne plus mettre de l'acide sulfurique dans l'eau, mais de l'acide carbonique. Pour le produire, on a collecté notre dioxyde de carbone depuis l'air qui sort de nos cheminées et on l'injecte dans l'eau. Donc, à la sortie de nos cheminées, il n'y a plus de CO2 qui part dans l'atmosphère.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre commence à devenir, si ce n'est une priorité, du moins un objectif pour les grandes marques du secteur de l'habillement. Une trentaine de groupes, dont Adidas, H&M, Nike ou encore Kering, ont signé lors du G7 de Biarritz le Fashion Pact.
La fast fashion est révolue.
Cette charte non contraignante prévoit une neutralité carbone dans le secteur d'ici à 2050.
On est par exemple sur l'utilisation d'énergie renouvelable à 100% dans toutes nos opérations industrielles à l'horizon 2030.
Qui êtes-vous ? François-Henri Pinault, le PDG de Kering.
On est sur la neutralité carbone complète à 2050 et ce qui ne pourra pas être réduit en termes d'empreinte carbone, compensation totale par achat de crédit carbone. On le fait parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut que l'on fasse. Et pour moi, c'est à force de loi. Une législation internationale, ça va prendre 15 ans. On n'a pas le temps.
France Inter, Interception.
Nous retrouvons Lola Fourmi à la blanchisserie de l'entreprise Bossa. Bossa est un sous-traitant des marques du groupe Inditex, dont font partie Zara et Bershka. Et vous allez l'entendre, si Bossa tente de produire des jeans plus écologiques, il doit aussi se plier aux caprices de la mode.
On fabrique d'abord le vêtement, et puis on le blanchit. Et ensuite, on fait les trous. Ils sont faits à la main et c'est cet homme qui fait ça.
What's your name?
Mustapha.
Donc là, Mustapha nous montre comment ils font les trous sur les jeans. Donc là, il enfile le pantalon brut sur une machine qui le gonfle.
Principalement, on fait ça à la main, mais on peut aussi le faire avec une machine, notamment avec un laser. C'est plus rapide et plus facile pour répéter la même chose. On a prévu d'investir dans le laser.
Donc en fait, il compare avec un jean qui vient d'user pour faire exactement les mêmes trous dans le jean d'à côté.
Je peux faire jusqu'à 15, 20 jeans par jour.
C'est pas quand même un peu fou de faire des trous dans un jean neuf ?
C'est la mode, vous savez. La nouvelle génération veut ce genre de modèle de jeans. Donc on doit répondre à cette demande.
C'est la réalité. Oui, la réalité, c'est la mode. Normalement, vous pourriez obtenir cet effet sur votre jean après l'avoir porté 7 ou 8 ans. Avec cette machine et l'aide de Mustapha, on gagne du temps. Personne ne veut attendre 8 ans. Vous voulez l'acheter comme ça dans les boutiques.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que du coup, dans une démarche plus écologique, on devrait arrêter de faire des trous dans nos jeans neufs, même si c'est plus vendeur?
Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est que ce soit porté et que ça plaise. La capacité à être vendu, à plaire aux acheteurs et suivre la mode, c'est plus important que d'être durable. Il faut que ce soit durable et portable, durable et vendeur à la fois. Si je produis des vêtements durables que vous n'achetez pas, je perdrai de l'argent et je devrais fermer mon usine et virer les 1300 salariés. Où est la durabilité là-dedans ?
Mais d'un autre côté, est-ce qu'aujourd'hui, ne pas faire des choses durables, c'est rentable? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas une demande tellement forte que ce serait passé à côté d'un marché?
Oui, bien sûr qu'on peut, mais il faut payer pour ça. Quand vous achetez des jeans faits au Bangladesh, vous pensez qu'ils font quoi là-bas? Ils sont dans l'esclavage moderne. Les rivières sont bleues à cause des teintures, et jaunes et rouges à cause des évacuations des eaux. Donc, l'industrie textile marche comme ça là-bas. Pensez-vous vraiment que toutes les entreprises du monde sont aussi propres que la nôtre? Croyez-moi, Bossa doit être dans les 10 entreprises de toile de denim les plus saines et les plus propres au monde. Ici, on vend le mètre de toile de jean, $3.50 le mètre, avec des travailleurs qualifiés, bien payés, et avec une entreprise respectueuse de l'environnement. Et on doit faire face à la compétition du Bangladesh, du Pakistan, où le prix de vente au mètre est de $2.20. Moi, je suis très fier d'ouvrir mes portes et faire visiter ma fabrique à tout le monde. Mais croyez-moi, si vous allez dans leurs usines, le lendemain, vous n'achèterez plus leurs jeans. Si l'industrie demande toujours le prix le plus bas à ses fournisseurs, c'est sûr qu'elle ne va pas choisir Bossa, parce qu'on vend $3.50 le mètre et eux, $2.20. Si vous, en tant que consommateur, vous cautionnez ces pratiques, ce coût si bas, sans vous demander « mais comment est fabriqué mon jean ?», vous êtes aussi coupable. En tant que client, demandez aux entreprises, aux marques, « comment est fait mon jean ? D'où vient ce prix ? Dans quelles conditions travaillent leurs ouvriers ? Quels sont leurs critères environnementaux ?» Je vous en prie, demandez-leur.
« 24 avril 2013, effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh. Le bilan s'élève à plus de 1100 morts.
Nous sommes sur les rives du Bosphore, à Istanbul. Carrefour de l'Orient et de l'Occident, c'est la mégalopole la plus peuplée de Turquie avec 15 millions d'habitants. On est ici parce qu'on a rendez-vous aujourd'hui avec Fevzi Abbasioglu, membre de Clean Clothes Campaign, une organisation internationale qui rassemble plus de 200 ONG, toutes dédiées à la défense des travailleurs de l'industrie de la mode. Et s'il veut nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de lancer une campagne de prévention contre les dangers du permanganate de potassium, une nouvelle technique utilisée pour éclaircir nos jeans et qui pourrait être dangereuse pour les travailleurs.
Quand on a lancé l'ONG Clean Clothes en Turquie, on s'est intéressé aux méthodes de blanchiment des jeans. C'était en 2007. À l'époque, l'industrie textile pratiquait la technique du sablage qui a coûté des milliers de vies en Turquie et rendu de nombreuses personnes malades, dont le directeur de notre association. Finalement, cette pratique a été interdite et maintenant il y a deux nouvelles méthodes utilisées pour éclaircir les jeans, le permanganate de potassium et le laser. Le permanganate est le plus largement utilisé. On voulait connaître l'impact de cette nouvelle méthode parce qu'il n'y avait aucune étude scientifique sur ce produit et on a pensé qu'il fallait en savoir plus. D'ailleurs, l'Agence chimique européenne a classifié le permanganate de potassium comme un agent chimique dangereux. Or, les ouvriers le respirent tous les jours, le manipulent tous les jours, alors qu'on n'a aucune étude là-dessus. On va voir si ce produit est aussi dangereux que le sablage. On a observé des impacts sur les travailleurs, des gens qui disent avoir des difficultés à respirer, ils toussent la nuit, ils transpirent beaucoup, ils ont des éruptions cutanées, mais il faut maintenant que ce soit étayé par des recherches médicales.
En Turquie, on estime qu'il y a environ 4 millions de réfugiés syriens qui sont arrivés ces dernières années, et ils sont beaucoup employés dans l'industrie du textile, avec parfois aucun contrat et surtout pas d'assurance.
Il y a des Syriens qui travaillent légalement. Mais d'un autre côté, il y a des Syriens, des Afghans, des Turkmènes, des Ouzbeks qui travaillent illégalement. Donc ce ne sont pas que des Syriens, ils viennent principalement de 6 ou 7 pays. Mais laissez-moi vous expliquer comment marche le secteur. On va dire qu'il y a une marque mondialement connue, qui a plusieurs sous-traitants en Turquie et dans d'autres pays. Régulièrement, elle va vérifier les conditions de travail, si les gens sont bien payés, si l'endroit est sécurisé, s'il y a des maladies professionnelles. Et chez ces sous-traitants, on remarque qu'en général, les conditions ne sont pas mauvaises. Mais ces sous-traitants ont eux-mêmes des sous-traitants qui fournissent des matériaux pour moins cher. Et ils font ça dans des ateliers cachés, illégaux, avec beaucoup de réfugiés qui travaillent sans papier. Il y a aussi des enfants qui travaillent là, des enfants de 14 ou 15 ans, qui travaillent pour 200 euros par mois, 6 jours sur 7, et jusqu'à 12 heures par jour. Le produit est fait là, et après il est vendu à un sous-traitant plus important, etc., jusqu'à la marque célèbre. Sauf que celle-ci ne vérifie que la première strate de sous-traitants, et là il n'y a pas de problème. Mais en vérité, le produit est fait dans des ateliers encore en dessous. Voilà comment le travail illégal s'organise, et c'est là que l'argent, la marge, se fait le plus.
Blue jean baby, je t'appelle comme ça.
Aujourd'hui, des dizaines de marques mondialement connues mettent en avant des produits plus éco-responsables. Mais pour le collectif français Éthique sur l'étiquette, il faut que nous, consommateurs, restions vigilants face à ce qu'on appelle le greenwashing. Ces enseignes qui lancent des campagnes de marketing avec un positionnement écologique, alors qu'il n'y a pas forcément de concret derrière. Nous voilà à Paris, où nous avons rendez-vous avec Naïla Ajaltouni, la coordinatrice du mouvement Éthique sur l'étiquette.
Notamment depuis le Rana Plaza, les marques sont obligées de changer. C'est-à-dire, il y a déjà un changement dans le discours. Il n'y a plus une entreprise qui fait l'économie d'un discours sur la responsabilité sociale, le développement durable, et de manière un peu plus concrète. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'économie circulaire, de recyclage, etc. Effectivement, il y a aussi plus de produits sur le marché à base, par exemple, de matières responsables, de coutures biologiques, etc. Et tout ça dénote quand même d'un changement au moins d'approche intellectuelle, je dirais, poussée par leurs consommateurs. Les réseaux sociaux ont fait vraiment leur travail d'interpellation. Les citoyens n'attendent plus en fait des injonctions de la société civile pour leur dire. Ils interpellent directement de manière beaucoup plus forte. Il y a beaucoup plus d'appels au boycott, par exemple, depuis quelques années, quel que soit le secteur. Dans le même temps, ce qui est évident pour nous, c'est qu'aucune des mesures prises par ces grandes entreprises ne cherche à réfléchir au modèle économique. C'est-à-dire qu'on continue quand même dans cette industrie à considérer qu'il y a un coût du travail qui est de fait extrêmement bas parce que l'industrie du textile est localisée dans des pays où les salaires sont sur l'échelle des salaires de pauvreté. Et donc aujourd'hui, les marques continuent à puiser dans ce vivier de main-d'œuvre peu chère, de produire en masse pour ce qui est de la fast fashion. Là, c'est vraiment un modèle qui a, je dirais, quand même vraiment tiré vers le bas les conditions de travail dans l'industrie et qui a engendré aussi des dégâts supplémentaires, notamment environnementaux. Donc il faut qu'on change ce modèle et que les entreprises ne se contentent plus de mesures cosmétiques, de mesures surtout de communication, parce qu'elles en font beaucoup trop de communication et évidemment c'est louche.
Et la fast fashion, si on peut rappeler, c'est ces marques de prêt-à-porter, beaucoup, qui font énormément de collections. On en est, je crois, à 24 changements de rayon par an. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aussi que le consommateur change de comportement, arrête d'acheter massivement, achète moins? Est-ce qu'on peut finalement acheter un jean plus éthique si on continue d'acheter tout autant?
Non, on ne pourra pas avoir une industrie responsable de l'habillement si on continue à acheter autant. Le consommateur a une responsabilité évidente, cruciale, mais la responsabilité première, elle repose quand même sur les donneurs d'ordre. Parce que si l'on se souvient, pour les un peu moins jeunes d'entre nous, à la fin des années 90, il n'y avait pas H&M, il n'y avait pas Zara, il n'y avait pas Primark. C'est vraiment un modèle qui est arrivé dans les années 90, au début des années 2000. Donc on s'est habillé autrement. Mais ce modèle de consommer à outrance, d'assimiler la mode à une multiplication des tendances et donc de l'achat qui devient de l'achat obsolète en quelques semaines, il a vraiment été créé par ces acteurs de la fast fashion. C'est un modèle avant tout qui a été créé parce qu'il était extrêmement rentable pour ces acteurs. C'est l'obsolescence programmée dans le vêtement. On assume qu'un vêtement est jetable. On ignore complètement le coût social et environnemental. C'est là aussi que la puissance publique doit intervenir pour réexpliquer aux consommateurs qu'en fait, il y a un coût social, il y a un coût environnemental. Et on voit bien que l'autorégulation ne fonctionne pas. Il faut que la puissance publique impose des règles contraignantes aux multinationales. Et c'est pourquoi on a travaillé pendant des années avec un grand collectif d'ONG et de syndicats en France à l'adoption d'une loi, la loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée en mars 2017. On fait en sorte que par cette loi, qui concerne l'ensemble des secteurs, elle n'est pas seulement pour le secteur textile, qu'on puisse engager la responsabilité juridique du donneur d'ordre de la maison mère lorsque, parce qu'elle a failli à son obligation de vigilance, son activité s'est traduite par des dommages sociaux ou environnementaux en dehors des frontières, en dehors du pays.
Interception sur France Inter.
On peut s'habiller autrement, disait à l'instant la responsable du collectif Éthique sur l'étiquette. Et c'est vrai que de nombreuses entreprises françaises se sont relancées ces dernières années dans la production locale de vêtements. C'est le cas d'Atelier Tuféry à Florac, en Lozère. Cette entreprise familiale fut l'une des premières au monde à fabriquer des jeans à la fin du 19e siècle. Il y a 3 ans, ses dirigeants ont décidé de concevoir des jeans plus écologiques et plus éthiques. Leur coton est importé, mais le jean est entièrement fabriqué en Lozère. Tuféry vend aussi des jeans à base de laine et de chanvre, deux matières naturelles produites en France, contrairement au coton.
Donc il est 8h du matin et les salariés embauchent.
Alors on s'installe, on met nos jambes valeur du bassin. On ancre bien ses pieds, on ferme ses yeux. On inspire profondément. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On stoppe et on souffle.
Qu'est-ce que vous faites là?
Déjà, on se retrouve tous à 8h. C'est souvent la journée, tout le monde fait ses tâches. C'est vrai qu'on se croise. Et c'est bien parce que le temps est 8h, si on est tous ensemble. Et on passe ces grosses 10 minutes à s'échauffer, à s'étirer pour préparer la journée. Préparer le corps à fabriquer ses pantalons et surtout à faire en sorte qu'on ne se blesse pas dans le temps.
Et après, on va se taper pour réveiller tout ça. Et voilà. Et
merci,
bonne journée.
Trop bien.
Bonne journée.
Bonne journée à tous.
Moi, je suis Julien Tuféry, donc je suis en charge de l'atelier Tuféry. Je fais partie de ces jeunes chefs d'entreprise. Je crois beaucoup à l'activité manufacturière française. Je suis persuadé qu'elle a de très, très, très beaux jours devant elle, à condition qu'elle se métamorphose. Dans les années 70, c'était facile. On avait des dames, notamment, je tombe pas dans la caricature, mais c'était le cas. Ben, on allait à l'usine, on s'asseyait devant une machine, on faisait 5000 tâches identiques tous les jours. Et on ne faisait que ça. Bon, ben, ok, c'était comme ça, c'était acté, on venait chercher le salaire à la fin du mois. Là, aujourd'hui, je vous mets au défi de penser ces modèles-là avec les jeunes générations. C'est fini. Et je préfère dire que c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, il faut s'émanciper sur le poste de travail. Il faut faire 50 tâches différentes dans la journée, c'est ce qu'on fait là. Il faut co-créer les produits avec l'équipe. Il faut impliquer l'équipe de fabrication dans tout le processus de la manufacture. Alors oui, c'est sûr que tout ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Mais par contre, c'est juste génial parce qu'on n'a pas de turnover. Et parce que les personnes, en fait, plutôt que de simplement venir travailler bêtement devant une machine à coudre, en fait, elles sont partie prenante de l'entreprise. J'ai souvent l'habitude de dire que les super conditions de travail Aujourd'hui, en 2019, elles ne sont pas réservées aux entreprises du numérique, du digital et du web. Vous remplacez juste ordinateur par machine à coudre et ça marche.
Le jean, le moins cher chez vous, il est à 109 euros. Ouais. Comment vous expliquez ce prix? Comment vous le justifiez? Comment vous le décomposez?
Le moins cher chez Atelier Tuféry, c'est 99 euros. Alors, je vais arrondir à 100 euros. Sur ces 100 euros, alors ça, c'est pareil. Encore une fois, ce prix-là n'est tenable que parce que les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ce jean-là, c'est à peu près un jean qui, en coût de revient, me coûte à peu près pas loin de 60 euros. On va dire 60 euros de coût de revient. C'est énorme. Vous allez au fin fond de la planète, il y a des ateliers qui sont capables de faire à peu près le même jean entre 3 et 4 euros. Sur ces 60 euros, on a à peu près 30% de matière. Et tout le reste, on a l'habitude de dire que dans le coût de revient d'un jean, c'est de la main-d'œuvre d'atelier. Ensuite, derrière, entre 60 et 100 euros, vous voyez que ça fait une marge d'un produit manufacturier de 40%. C'est franchement pas énorme. Dans ces 40%-là, il faut caler tout ce qui va être le marketing, la communication, les expéditions, tout ce qui est dans l'investissement de l'atelier, c'est-à-dire extension de l'atelier, parce que quand vous reviendrez nous voir, l'atelier a triplé de volume, donc ça c'est chouette, et surtout la formation du personnel.
Ça fait combien en marge brute?
En marge brute, on doit être à peu près à une toute petite quinzaine de pourcents, quoi. Alors oui, ça peut paraître important en se disant que sur 100 euros que j'achète mon jean, il y a 15 euros qui reviennent dans la poche d'Atelier Tuféry. Mais pour le coup, ça revient dans la poche d'Atelier Tuféry et pas dans la poche de Julien Tuféry. Ces 15 euros-là nous permettent d'investir massivement dans l'extension de l'atelier, formation du personnel, achat de matière, achat de logiciels. Tout ce qui va faire qu'on sera encore plus performant, encore plus beau, qu'on va pouvoir aussi développer. Et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler alors que c'est une part importante, tout notre R&D. Vous allez voir des champs de chanvre, vous allez voir des fils de laine, vous allez voir tout ça. Mais tout ça, c'est un coût qui est colossal et qu'on s'autofinance. On a quelques subventions, mais franchement, largement pas assez pour tout ce qu'on fait.
Et pourquoi investir là-dessus, alors?
Pourquoi investir là-dessus? Parce que je pense qu'on ne pourra pas trop se permettre d'avoir le luxe de faire voler ou naviguer des bottes de coton qui viennent de très très loin, très longtemps. Je pense que du coton, c'est une matière qui est en sursis qu'on ne pourra peut-être plus utiliser dans 30 ans, quoi. C'est presque un peu dur, c'est presque une difficulté pour nous d'assumer aujourd'hui, en 2019, dans la startup nation, dans le fait de pouvoir se gargariser, d'afficher des croissances de chiffres extraordinaires le plus vite possible. Aujourd'hui, presque, on nous regarde avec les gros yeux quand on dit, nous, qu'on essaie de prendre le temps, en fait, de construire notre modèle économique. Si on veut des jeans, il faut former des personnes pour le faire, ou alors il faut tisser des liens avec des ateliers partenaires. Tout ça prend énormément de temps. Donc, c'est sûr que si j'avais 10 000 jeans en stock, je multiplierais encore par 10 mon chiffre d'affaires, sauf que j'ai pas les 10 000 jeans en stock. Mais donc, du coup, on prend le temps de former. Et c'est sûr que de se dire que nous, on est sur un modèle où on espère en tirer les fruits dans 5, 10, 15, 20 ans, ça peut faire grossir un petit peu les yeux, mais non, mais c'est comme ça.
C'est bon, Audrey, ouais, tu peux en parler.
Tu veux que les 40, les ceintures, elles
sont dedans, tu
vois?
Ah, d'accord, vas-y.
Oui, François, ça va? Bon, super. Écoute, pour te dire qu'on va sortir de la vallée pour aller sur ton cos, donc on part de l'atelier, là.
Donc, pour remplacer le coton, Julien vient de nous l'expliquer. Il utilise aussi désormais du chanvre, de la laine, des produits qui viennent notamment de chez François Mante, un agriculteur installé à une quinzaine de kilomètres de Florac que l'on va rencontrer.
Alors là, vous êtes devant ma collection de jeans 2020.
Donc ça, on est d'accord que c'est des ballots de laine.
Voilà, donc il faut avoir un peu d'imagination entre les ballots de laine et mes jeans de 2020. Mais alors pour le coup, voilà, c'en est le parfait exemple. Cette laine va partir en Haute-Loire se faire laver. Elle va partir à Brassac dans le Tarn se faire filer. Elle va partir entre Castres et Mazamet se faire tisser. Et ensuite, ça partira dans l'atelier à Florac pour être confectionné. Donc pour le coup, là, on parle de circuit court. On est incapable de faire plus court, là. À part avoir les moutons dans l'atelier, mais sinon... nous, on s'émancipe tous les jours de développer ça. Et c'est génial parce qu'il y a encore 3 ans de ça, c'était marginal, c'était anecdotique. Aujourd'hui, on est sur 20% de notre chiffre d'affaires autour de ces filières locales. C'est super. Super.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Enchanté.
Bonsoir. Bonjour.
Alors, François Mante, je suis éleveur paysan en Lozère, sur le Cosmégen, depuis 2007, réinstallé en brebis laitière pour la filière Roquefort. Donc, c'est des brebis qui vont dehors quotidiennement, en fait. ça fait partie de, d'une des obligations de notre cahier des charges. Elles sont alimentées à base de foin et d'herbes, en fait, et de céréales, produites sur l'exploitation et autoconsommées.
Et donc aujourd'hui, la laine de vos brebis, elle a une seconde vie.
Ben, la laine, jusqu'à maintenant, c'était en fait un produit qu'on négligeait complètement, puisqu'en fait, on tendait, c'était une tâche, une charge annuelle qu'on était obligé de faire, pour le bien-être animal d'ailleurs. Et donc l'initiative de Julien et de son entreprise a été d'arriver à valoriser cette laine un petit peu mieux, plutôt que de l'exporter directement en Chine pour la voir revenir sous différentes formes.
C'est ce que vous faisiez avant ?
C'est ce qui se produisait avant, oui.
Et là, vous vous êtes dit, vraiment, la laine de mes moutons peut servir à
et
faire du jean ?
On s'est dit, mais pourquoi pas, c'est génial, cette laine qu'on jette quasiment quand on ne fait rien, pourquoi elle ne resterait pas ? Elle ne reviendrait pas dans un circuit court, être intégrée dans un pantalon ou une veste à forac à 20 km, quoi. Donc, ce n'est pas notre production principale, ce n'est pas ce qui nous fait vivre, c'est le lait ou la viande des agneaux, donc... C'est un petit plus, mais intellectuellement, c'est génial. On dépasse la réflexion purement agricole, quoi, et voilà, on essaye de revaloriser cette matière noble, quand même, qui est la laine, quoi. Le rapport entre le prix vendu comme ça, en brut, sans savoir où ça va, et le prix qu'on arrive à valoriser avec ces fabrications-là. Allez, on part de 30 centimes du kilo à 1,50€, quoi.
Donc vous vendez plus cher pour que ce soit utilisé en fil que quand vous l'envoyez à un exploitant qui l'envoie en Chine. Donc pour vous, économiquement, c'est aussi mieux.
Bien sûr, hein. C'est évident.
Est-ce que vous pensez que c'est un changement de manière de produire, de changer les matières premières qui soit essentiel aujourd'hui ? De remplacer le coton par la laine, par exemple ?
C'est pas une mode, je pense que c'est une évolution sociétale qui fait que on redécouvre le vivant, la matière et les produits naturels, les fibres végétales, les fibres animales, la laine, le chanvre, le lin. On en a un peu marre de porter du synthétique et des produits transformés je ne sais où et de la façon la moins transparente possible.
Interception sur France Inter.
On arrive sur notre parcelle de chanvre qu'on a semé le 4 juin 2019 et qu'on vient de faucher le 4 août 2019.
Donc ça pousse très vite en fait le chanvre.
Oui, moi j'ai été agréablement surpris par la vitesse de germination et de pousse, ouais, et de végétation, ouais. Pour arriver à des hauteurs de paille de 1,70 m à 1,80 m.
Là, ça va payer. Là, là il faut le balayer, là, il ne faut pas le laisser se mouiller, sinon ça paiera moins.
Nous retrouvons ici aussi Pierre Amadieu, agriculteur chanvrier. Il est chargé de défibrer le chanvre pour l'utiliser ensuite dans la fabrication de la toile de jean.
Donc je travaille le chanvre depuis bientôt une vingtaine d'années. Ce que je recherche, c'est extraire la qualité, la valeur textile des fibres de chanvre, parce que ça amène une vraie valeur ajoutée à l'agriculteur déjà, et ça permet aussi au niveau des territoires de produire de l'activité, de créer de la résilience.
Quelle qualité il a, particulièrement sur le jean, pour remplacer le coton ?
Il y a la qualité intrinsèque de la fibre, hein, une fibre qui est très résistante, qui va permettre de construire des jeans qui vont avoir une longue durée de vie. Et puis ensuite, on est sur une ressource locale, donc une ressource qui ne voyage pas, une ressource qui consomme peu d'eau. Le problème du coton, c'est qu'il consomme énormément d'eau. Le chanvre, lui, consomme 3 à 4 fois moins d'eau qu'une culture de maïs. On peut cultiver du chanvre sans irrigation. Ici, on est sur l'Écosse, des territoires assez secs, assez arides, et on a eu, malgré tout, une belle production de chanvre. Et à l'observation, ici, on commence à avoir déjà une très belle qualité. L'idée n'est pas de faire des filières industrielles, pour faire de la concentration, des déplacements de camions, mais avoir des petites filières locales qui permettent d'apporter des réponses locales à des besoins locaux.
Alors du coup, pour les hommes, on a 3 modèles. On a Alphonse qui va être une coupe ajustée, c'est-à-dire qu'elle va être proche de votre jambe sans coller.
Retour à l'atelier Tufféry, côté boutique maintenant, pour voir ce que les clients viennent chercher ici.
Le noir et le coton bio.
Et pur produit français.
pur produit français. La fabrication est totalement française. Après, la toile, malheureusement, en France, il n'y a plus...
Oui, bah bien
voilà.
Sûr.
Donc, on prend assez européen. C'est Italie, nord de l'Espagne. Le noir et la bleue moleskine viennent d'Alsace. La laine vient d'un petit agriculteur qui est juste là au-dessus de notre Cosse, à 5 km. C'est très local. Enfin, on essaye d'être le plus local possible.
Développement durable.
On essaye.
C'est bien.
On essaye. Est-ce que ça vous tente d'essayer?
Oui.
Oui. Allez.
Je peux vous demander vos prénoms?
Moi, c'est Jean-Jacques.
Jérôme.
On fait le tour des Cévennes à vélo.
Et donc, vous cherchiez un jean ou c'est absolument, par curiosité?
Absolument, par curiosité. Et puis...
On est sensible au fait d'acheter français, local, dans un esprit de développement durable, on va dire, pour éviter de piller un peu moins la planète, parce que je pense qu'il y a urgence.
Par exemple, là, il y a du coton bio, vous n'avez pas forcément choisi le coton bio, est-ce que c'est vraiment important pour vous ou au final, pas vraiment?
Le bio, c'est encore l'étape du dessus, je pense. Il y a le local, le bio, ou le bio et le local, dans quel sens il faut prendre le problème, mais c'est marche par marche, on va dire, puis aussi en fonction du budget.
Parce que là, c'est un budget conséquent. Est-ce que vous, ça vous semble être un bon investissement? Est-ce que c'est trop cher, pas assez pour ce que c'est? Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix?
Non, c'est abordable. On peut se l'offrir, sinon on ne serait pas là.
Il voilà. A combien celui-là?
109, ouais, c'est le prix d'un...
109, c'est le prix d'un jean. J'irais pas à 220, quoi. Mais est-ce qu'il y en a à 220, c'est ça? Je suis désolé.
Ah oui,
chacun son budget.
C'est pas la même matière, après.
C'est pas la même matière, voilà. Même si je chante.
Et le jean, au départ, c'est du coton ou c'est du champ? Le premier jean.
Alors, le tout départ, ben, ça sera plutôt du chanvre, parce que la serge, elle a été l'armure de Nîmes, ça vient de la ville de Nîmes, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on dit de Nîmes d'ailleurs. Donc, tout ce qu'ils trouvaient, on va dire, dans un périmètre aux alentours de Nîmes, c'était ce qui se retrouvait après dans la toile en sergé. Donc, c'était pas du coton, puisque le coton ne s'est jamais cultivé en France, mais c'était du chanvre à la base. Et après, il y a eu une grosse influence américaine où le coton est arrivé en masse. Et a révolutionné, bon, ça a été une grosse révolution industrielle, et on a retrouvé du coton partout. Et ça continue encore. Mais c'est pour ça que nous, on essaye de remettre au goût du jour des matières naturelles, des matières locales, beaucoup moins préjudiciables pour l'environnement et les hommes, notamment le chanvre, la laine, la soie. Voilà. Donc 119 euros, ça.
Les vêtements fabriqués en France coûtent plus cher que ceux qui sont importés. Ils ne sont donc pas forcément accessibles à toutes les bourses. Nous sommes de retour à Paris avec Lola Fourmi et Naila Ajaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette.
Est-ce que finalement aujourd'hui pour consommer éthique et propre, il ne faut pas avoir les moyens aussi de le faire?
Il y a un premier élément qui est qu'un jean à 5 euros, ça n'existe pas. Derrière un jean à 5 euros, on a ignoré le travail d'individus, leurs conditions de travail, leur vie, leur droit à la dignité. On a ignoré les pollutions massives et irréversibles, etc. Encore une fois, on s'est habillé autrement qu'avec des jeans à 5 euros, même quand on avait très peu de moyens, même les classes plus pauvres, populaires, il y a quelques années. Donc c'est un système économique qui a été créé pour que des marques vendent en masse pour un modèle très rentable, selon le principe de la grande distribution en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que l'alternative proposée par des marques responsables est très chère. Il faudrait aller creuser quelle part de ce prix repose aussi sur la communication, du marketing, etc. Bon, la marge fait entièrement partie du modèle économique des marques, c'est normal. On aurait le droit de questionner aussi ce prix assez élevé. Et il y a un coût tout à fait justifié qui est effectivement le coût du travail, le coût de normes sociales, le coût de normes environnementales qui sont un investissement pour notre avenir, qui est la façon selon laquelle on doit acheter et consommer. Et puis je pense quand même qu'il y a le développement de marques intermédiaires et qu'on devrait pouvoir arriver à des prix quand même moins élevés qui permettraient à la masse de s'habiller correctement. Il faut encore une fois aussi une intervention des pouvoirs publics pour soutenir ces projets, parce que de la même manière que le café équitable a été très cher à ses débuts, l'augmentation de sa consommation, de son achat, par un mécanisme tout naturel de l'offre et de la demande, a fait qu'on a réussi largement à aligner des prix, et surtout qu'on a un café de grande qualité, de grande diversité. Donc il y a la question de la qualité, on la retrouve aussi dans le vêtement. Un vêtement très cher n'est pas nécessairement de très grande qualité, mais un vêtement peu cher est quand même très généralement de mauvaise qualité. Donc on peut avoir ce critère-là. Et puis je pense aussi aux marques pour lesquelles on est prêt à investir, enfin les marques de sport ou des marques intermédiaires, je pense à Claudie Pierlot, Mage, Zadig et Voltaire, etc., les petites qui sont très chères, qui sont pas nécessairement de bonne qualité, qui sont pas nécessairement faites dans de bonnes conditions. Donc parfois, on arrive à acheter des vêtements chers pour des aspects de mode. On peut tout à fait reporter ce type de choix, encore une fois, lorsqu'on le peut, sur des marques responsables, parce que l'offre s'est tellement diversifiée. Il y a eu un tel effort et talent quand même dans la création qu'on trouve aujourd'hui des marques vraiment très belles, très tendance, y compris dans l'équitable. Et encore une fois, il reste la seconde main. Et l'idée, c'est quand même qu'on aille vers une diminution de nos achats pour des pièces plus responsables, plus saines, pas seulement pour les travailleurs, mais aussi pour nous, et contribuer ainsi à l'évolution du modèle économique.
Blue Jean Baby, je t'appelle comme ça.
Un chiffre résume bien notre surconsommation de textiles. Ces 15 dernières années, la production de vêtements a doublé dans le monde et on les porte deux fois moins longtemps, d'après la fondation Hélène MacArthur. Un autre jean est possible, c'était un reportage de Lola Fourmi, réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Et vous pouvez réécouter ce reportage sur franceinter.fr. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre de ceux qui ont franchi le mur de Berlin au péril de leur vie.
C'est sur l'âge près qu'une première personne a été tuée. Il s'agissait de Günther Littfins, c'était le 24 août 1961. C'était le premier des quelques 165 personnes qui ont été tuées en essayant de franchir le mur de Berlin.
Une émission diffusée à l'occasion des 30 ans de la chute du mur. Après le journal, vous retrouvez Eva Bester pour Remède à la mélancolie.